FM 93. Que Québec se lève.
Chronique Virage. Avec Daniel Boudreau.
Ben oui, on a de la visite en studio. Daniel Boudreau, t'étais dû pour venir nous voir.
Ben oui, merci. Bonne année à tout le monde. Merci de m'inviter. C'est le fun d'être là.
Pas trop eu un gros temps des fêtes.
Ben relax, je me suis entraîné. Regarde ça comment.
Non, ça paraît. Daniel est arrivé en grande
forme. Je me suis reposé.
Bon, là, Daniel, on a une couple d'affaires à jaser. Là, d'abord, s'il y a des gens qui sont dans leur changement de véhicule du temps des fêtes et ils ont pris comme résolution de changer de voiture, je ne sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez comme résolution. 25-226, on aura la chance tantôt, on cumulera une couple de questions, puis on aura la chance de te poser tout ça. Mais avant, je vais te laisser commencer, Vez, parce que t'es arrivé sur un palmarès de véhicules un peu non désiré.
Oui, je suis tombé là-dessus sur Facebook, là, parmi le paquet de cochonneries qu'on voit passer sur Facebook. Un top 25 des voitures qui n'auraient jamais dû être construites.
Ben oui.
De plusieurs manufacturiers différents, des voitures qui ont eu plus ou moins de succès au niveau popularité, encore moins au niveau performance, pour la plupart. Il y a des modèles là-dedans qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins, mais ils ont toute une petite histoire intéressante. J'en ai noté quelques-unes. Je ne sais pas lesquelles, toi, tu as retenu.
J'ai retenu quelques véhicules assez particuliers. Et d'ailleurs, il y a deux, trois affaires qu'il y avait pas. Peut-être moins d'affaires là.
OK.
Je comprends dans la liste.
Tu n'es pas d'accord avec leur choix.
Fallait faire une liste, mais tu sais, tout ce qui est voiture, parce que moi, je suis pas tellement voiture ancienne et voiture antique et voiture du passé. Et je comprends ceux qui aiment ces voitures-là et tout. Puis, il fallait passer par cette étape-là des années 50, 60, 70, même pour arriver à quelque chose, arriver à nos voitures d'aujourd'hui. Puis, que c'est avec les technologies de l'époque, on peut pas comparer voiture avec aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Mais ces voitures-là étaient vraiment construites dans une optique où les manufacturiers voulaient faire maximum de profit. C'était le profit avant tout.
Ouais.
Si tu regardes la Ford de Pinto,
Ford Pinto
qui annonçait une catastrophe épouvantable. Effectivement, on voulait arriver fin des années 70, fallait consommer moins d'essence. On commençait à avoir des normes sévères aux États-Unis. Puis les Nord-Américains construire des petites voitures, c'est une catastrophe. Là, on a presque pris une Civic à l'époque chez Honda, puis on l'a copié grosso modo, mais en faisant un petit peu plus gros parce que c'est des Américains. Puis là, on a fait une voiture à haillon. Le haillon servait pratiquement de pare-choc. C'était épouvantable au niveau. Mais ben, c'était quand même cute au niveau du design.
Ouais, puis c'était pas très cher, mais ça valait pas très cher au niveau sécurité. Protection. Comme tu dis, le pare-choc, c'est parce qu'ils ont mis le réservoir d'essence à l'arrière, directement à côté, quasiment collé sur le pare-choc. Ça fait que dès que tu te faisais rentrer moindrement dans le derrière, il y avait des incendies. Il y a eu des morts là, à cause de ça. Là.
Oui, il y a eu des morts, mais il y en a eu moins qu'on peut le penser. Ça a fait plus jaser parce que c'était spectaculaire.
Ben oui.
Tu te fais rentrer dedans, il y a des risques d'explosion et d'incendie majeur. Et évidemment, ça amène des décès. Sauf que la compagnie, puis quand je te disais que la compagnie, souvent, ils pensaient en termes de profit à l'époque, puis la sécurité, puis les gens, c'était peut-être secondaire. Et eux autres, Ford s'était dit, écoute, on va faire le calcul. Puis là où les normes ont commencé à être plus sévères au niveau des compagnies, c'est qu'ils se sont dit, bon, on estime au nombre de véhicules qu'on vend. Il s'en est vendu quand même 5,5 millions de ces affaires-là. C'est quand même...
Le rapport qualité-prix était quand même intéressant.
Oui, était cute, puis c'était quand même assez bien construit pour l'époque. Donc, c'était pas si pire. Mais on disait, bon, on en vend sur la durée de vie du véhicule avant qu'on puisse le changer, par changer l'outillage, puis tout ça, c'est de l'ouvrage. On va faire à peu près 180 morts, on va avoir des poursuites, on va payer à peu près 200 000 du mort. Bref...
C'est incroyable de penser
avec tout ça,
ça
on a pensé que, bon, ça va coûter 50 millions, puis ça coûterait peut-être plus cher changer le modèle. Fait qu'on bouge pas. Hey, là, ça a fait une tollée épouvantable.
Ben
là,
oui.
Ils ont dit, non, ça marche pas. Là, on va créer un organisme de surveillance, puis on va commencer à surveiller les manufacturiers, pas qu'ils pensent de même. Puis finalement, il y a eu 28 morts, 27 morts, il y a eu moins de 30 morts, bref.
Ben, donc c'est quand même 28 de trop.
Ça a coûté moins cher à Ford que ce qu'ils pensaient à 180. Puis ils ont été poursuivis. Bref, il y a eu toutes sortes d'affaires.
Il y a un autre modèle qu'on a vu beaucoup au Québec, qui n'avait pas le même nom en Europe qu'ici. Je pense qu'ils appelaient ça en Europe le car. Ou aux États-Unis, c'était la Renault 5.
C'est the car.
The car.
The car.
Dans ce cas,
ben,
dans
si t'es en France, c'est the car.
The car.
The car.
Mais ici, on l'appelait le schnack.
Le schnack?
Tu de la publicité?
Le schnack? Non, je me souviens pas de ça.
Il me semble que c'est... En tout cas, Renault 5, c'était le schnack, la publicité. Là, c'était comme le surnom de la voiture. C'est, on dirait que c'était un deux tiers d'auto coupé à travers à l'arrière. Un peu, là, un peu comme les Gremlins. 5,
c'est l'histoire d'un amour avec cette voiture-là. C'était... Les suspensions, oui, c'était pas performant. Là, son moteur était pas performant. Il y avait aucune puissance là-dedans. C'était construit tout croche. Sauf que quand t'en avais une, tu l'aimais tellement. Il y avait, je sais pas, une espèce d'histoire d'amour qui se créait avec ce véhicule-là. C'est un véhicule pour aller en ligne droite. Dès que tu prenais une courbe, il y avait pas de suspension après ça. C'était épouvantable.
Le poids était mal réparti.
Il y a une roue qui levait en arrière. Fait qu'il y avait la suspension était beaucoup trop molle, ce qui est caractéristique des voitures françaises à l'époque. Mm-hmm. Ça a presque toujours été ça, des suspensions molles à pu finir. Puis, évidemment, ben, ça donnait des voitures qui faisaient des sorties de route. Puis, elles n'étaient pas adaptées pour nos conditions ici, puis des froids, puis tout ça. Donc, c'était catastrophique. Mais je suis pas d'accord que cette voiture-là n'aurait jamais dû être construite parce que c'est un succès. Là aussi, en France, ça en est vendu partout dans le monde, ça en est vendu des millions, des millions, des millions. C'est juste qu'elle n'aurait pas dû être importée au Canada.
OK. Celle qui est en premier sur la liste du site Internet, là, c'est Motor Junkie. C'est la Volkswagen Phaeton qu'on n'a pas connue vraiment ici. En fait, je ne sais pas si c'est parce que le modèle n'a pas été...
C'est que Volkswagen s'est trompé avec ça. C'est qu'on voulait faire une voiture très haut de gamme, mais l'appeler Volkswagen. Puis on a déjà la division Audi pour faire ça, puis s'amuser avec du haut de gamme. Donc, on a voulu faire une voiture à 100 000 $ l'appeler Volkswagen. Puis on n'a pas voulu mettre de style. Tu sais, tant qu'à faire une voiture, mets quelque chose, mets du design, mets du style. C'était comme une grosse Passat, c'était banal comme véhicule, intérieur, extérieur. Oui, c'était du très haut de gamme, c'était basé sur, je pense, une A7, quelque chose, une Audi A6 ou A7. Non, c'est une A8, voyons, on va l'avoir le chiffre. C'est une A8, une Audi A8, mais bon, ça n'avait pas de design, ça n'avait rien. Fait qu'évidemment, ça n'a pas eu. Tu ne dépenses pas 100 000 sur un produit qui s'appelait Volkswagen. Puis en plus, c'est lettre à mourir quand tu le regardes.
Il semblerait que ce soit le chameau, la Renault 5.
Ah, le chameau?
Oui, il y a deux personnes qui...
Oui, ça, je me souviens, parce qu'on disait que ça consommait pas. C'était comme un chameau, tu n'avais pas besoin de la remplir souvent.
Mais pas consommé à ce moment-là, c'était quoi à peu près comme consommation?
Bien, c'était en 1000 au gallon à l'époque. Hein, c'était un peu différent. On parlait de 1000 au gallon au lieu de parler de litres au 100. Mais si tu mets ça dans une Renault 5, d'après moi, ça devait être du 5-6 litres au 100.
Ah, OK.
À l'époque, c'est possible.
Puis à l'époque, c'est bon. Puis là, ça veut dire que le prix de l'essence là, était 40 cents, 30 cents le litre.
Ouais. Puis je vais finir sur celle-là parce que elle était lettre, mais pas à peu près. C'est la Pontiac Aztec. qui est sorti en 2000. On dit que c'était une bonne idée sur papier, mais pas sur la route. C'est une modèle intermédiaire, spacieuse, quand même moderne, mais lettre. Là.
Écoute, ça, c'est intéressant parce que moi, je suis allé au lancement du Pontiac Aztec.
Ah,
le lancement canadien s'est fait à Whistler. Et on a eu plusieurs lancements là, des manufacturiers qui nous ont emmenés à Whistler pour faire le dévoilement du véhicule. Mais cette fois-ci, c'est que on arrive à Whistler, normalement, tu es dans le village, puis dans une salle pas loin, connexe, le véhicule est dévoilé. Cette fois-ci, ils nous font monter au-dessus des pentes, en haut, au sommet, mais le dernier des sommets, il y a un genre de petit chalet qui est en haut, et le véhicule est caché là.
Dans le chalet?
Non, sur le bout. Et quand ils dévoilent le véhicule, on regarde ça. Là, tout le monde avait le goût de se sauver, mais t'es en haut des pentes, tu peux pas te sauver. Je dis pas pour rien qu'ils nous emmenaient en haut là.
Sauver parce que c'est trop vite.
Ben oui, tu sais, tu dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça?
Ils ont monté ça en hélicoptère.
Tout le monde était crampé, je sais pas. Oui, il aurait pas dû, il aurait dû le laisser. Peut-être qu'il est encore là, je sais pas. J'ai jamais remonté, il l'a peut-être jamais redescendu.
Mais c'est un genre de critique. C'est un genre de hatchback, un gros hatchback coupé au milieu du coffre, mettons.
Mais ce qu'on a pris, c'est pas compliqué. On a pris une mini fourgonnette à l'époque, là, les transports qu'on avait, là, puis on a modifié cette plateforme-là pour en faire un c'était une bonne idée. Mal exécuté, mais c'était une bonne idée parce que on voulait un genre de sport utilitaire à l'époque. Ça commençait, dans l'année 2000, ça commençait à peu près à prendre forme.
Même qu'il n'y avait pas une option qui venait avec une tente.
Il y avait une tente en arrière que tu pouvais faire
avec
du camping. C'était un véhicule versatile. Oui, tu pouvais accrocher une tente bien faite sur mesure pour ça. Fait que c'était pas mauvais comme idée. Tout ce qu'il y avait comme idée autour, c'était pas mauvais, sauf le style. Mm. Parce que c'est le 3.4 litres, il y avait de la mécanique qui était quand même bien, qui était économique dans le véhicule. C'était pas le summum, mais c'était quand même pas pire. C'était le comportement d'une mini-fourgonnette, fait que ça avait rien de sportif, fallait pas aller de ce côté-là. Mais le côté pratique était quand même intéressant. Il y a du monde qui trouvait ça beau.
Ouf!
Mais... Ben, il s'en est vendu, puis c'était dans des couleurs épouvantables, jaune,
oui,
vert,
il y avait
des
aussi.
Affaires
épouvantables. Il y en a, Daniel, qui nous disent que c'était plus laid que le troc Tesla encore.
Oui, mais c'est ça. Donc, c'était mal exécuté, mais l'idée, pour l'époque, c'était quand même pas mauvais, mais
le
design n'aurait jamais dû passer.
Ouais.
Sauf que moi, dans ces affaires-là, comme le troc Tesla, je ne condamne pas les manufacturiers qui osent quelque chose. Mm-hmm. J'aime mieux quelque chose d'excentrique qui va plaire à un petit pourcentage de la population, tandis que une affaire plate à mauvais, qui n'a aucun design. Fait qu'il faut oser, mais il a osé puis osé.
Puis souvent,
dans
c'est comme...
Dans le cas du Aztec, il était complètement...
Ouais. Mais c'est comme la première idée d'un brainstorm. Peut-être que la première idée n'est pas bonne, mais ça va amener...
Décline-la à quelque chose.
C'est ça, puis ça va inspirer d'autres choses qui vont être vraiment meilleures.
L'idée, puis il n'y avait pas de visibilité en arrière, il y avait une fenêtre.
C'était comme mal faite, là, du coup, de l'image que je vois, là, visiblement, tu ne voyais pas grand-chose. Il y a Sylvain qui nous parle de deux autres modèles de véhicules qui étaient assez laids, le Reliant K et le Omni 024. Semblerait-il que c'était des poubelles. Je ne sais pas si tu as des souvenirs de ça, là, Daniel. Là.
Oui, Reliant K, Ariès. C'était carré, banal, simple, mais efficace. C'est ce qui a sauvé la compagnie Chrysler, d'ailleurs.
Ah
parce
que
GM avait, à l'époque, fallait arriver avec des débuts des années 80 encore, fin 70, début des années 80, fallait arriver avec des petites voitures 4 cylindres. Et les Nord-Américains n'aiment pas ça, faire des 4 cylindres. Ils se dépêchent, se sont dépêchés, ils s'en foutaient, c'était pas grave. C'était juste pour baisser la consommation de la compagnie en général, puis arriver avec les nouvelles normes anti-pollution qui étaient émises par le gouvernement à l'époque. Mmh. Et GM avait, si je me trompe pas, c'est la Citation. C'est-tu la Citation? En tout cas, il y avait un véhicule concurrent.
Ouais.
Puis si GM sortait ce véhicule-là, comme Chrysler était en difficulté, Chrysler aurait fermé ses portes tout simplement. Donc, la Reliant K a aidé à faire ça. Et M. Iacocca, à l'époque, le président, a pris cette voiture-là, le modèle K qu'on l'appelait, là, le modèle K à l'époque. Mm-hmm. Et il en a fait l'autobucou. La caravane qui a vraiment, elle, lancé. Et c'est une base de Reliant K. Les premières générations de caravanes.
Ouais.
On a fait la caravane, ça a relancé la plateforme, évidemment, qui était déficitaire parce que c'était un peu fiable, puis le monde n'aimait pas ça. Fait qu'on a récupéré tout ça, puis on a relancé. Et là, Chrysler a eu des années florissantes.
Eh ben.
Avais-tu d'autres modèles de véhicules?
Ben, le Corvair. Dans ta liste, il y avait le Corvair. Puis le Corvair, c'est assez intéressant, ce véhicule-là. Encore une fois, c'est dans le milieu des années 60, si je ne me trompe pas. Corvair, je n'ai pas regardé la date correctement. Mais on devait arriver avec des véhicules qui consomment un peu moins, faire des véhicules compacts pour les Nord-Américains.
C'est une voiture sport, ça.
C'était une voiture... On voulait avoir une voiture qui était un peu sport, mais voiture du peuple également.
Okay.
Et là, on innovait quand même, on osait à l'époque. Là. On a décidé de faire une voiture qui était, parce qu'il faut pas oublier que c'était des propulsions à l'époque, et là, une voiture avec le moteur arrière. Le moteur carrément dans le coffre, mais le véhicule a vraiment l'air d'une berline. Là. C'est pas le style d'une Porsche 911, là. C'est vraiment le style d'une berline avec un moteur arrière. Et tu la regardes, tu penses que le moteur est en avant comme tous les autres véhicules, mais c'est un moteur arrière. Et moteur arrière veut dire un moteur à plat, moteur boxer refroidi à l'air. Et on s'est associé avec Porsche. Donc, Porsche a fourni des moteurs ou a aidé au développement du moteur pour cette voiture-là. Suspension indépendante aux quatre roues aussi à l'époque avec moteur arrière comme ça, c'était quand même de la belle technologie. Sauf qu'il est un avocat, que j'oublie son nom, commençait à faire, a vu que il y avait plusieurs accidents qui étaient où la Corvair était impliquée. Mais... comme Vasle a dit, c'est une voiture un peu plus sportive. Donc, ceux qui achetaient cette voiture-là s'amusaient avec la voiture. Le moteur était en arrière, t'avais quand même beaucoup de poids à l'arrière, t'avais une stabilité où tu pouvais t'amuser avec cette voiture-là. T'avais un genre de comportement. Donc, comportement sportif veut dire que il y avait plus de sorties de route, il y avait plus d'accidents que cette voiture-là. Elle était pas moins sécuritaire, mais moins de poids à l'avant. c'est un peu...
En hiver, là, t'as pas de traction, t'as l'impression de conduire un trois-roues, là?
Oui, mais c'était la norme à l'époque d'avoir des propulsions, donc peu de poids à l'avant. Ça fait que celle-là arrivait où, au niveau des tests, elle était pas moins sécuritaire qu'en avoir de quelle voiture qui était sur la route à cette époque-là. Mais elle était impliquée dans plus d'accidents parce que les gens l'achetaient et ils faisaient de la conduite sportive avec. Alors, c'était une voiture qui a fait en sorte, et tout ça a fait en sorte que ça a amené quand même des normes de sécurité accrues aussi. Mm-hmm. Donc,
Ralph Nader, l'avocat, qui s'est intéressé à ça. Merci à l'auditeur qui nous fait remarquer par texto. D'ailleurs, parlant de texto, si vous avez des questions pour Daniel, envoyez-nous-les. On va faire un bloc tout à l'heure avec Daniel. Là, il y a déjà des questions, notamment Alain. Là, je l'ai pris en note, votre question, puis on va y revenir tantôt.
L'autre voiture, c'est la Cadillac Cimarron.
La Cadillac Cimarron.
Cimarron. Encore une fois, c'est toujours le début de... C'était une période sombre, là, je dirais le mi-75 à mi-85 pour l'histoire d'automobile, là, mis à part quelques exceptions. Là. Surtout au niveau des Nord-Américains, okay. On voulait avoir des voitures plus petites, puis on consommait moins de carburant. C'était la crise du pétrole.
Okay, parce qu'à l'époque, les Cadillacs, c'était des paquebots. Là.
C'est ça. Cadillac en bas de 30 pieds, t'en avais pas. Là. C'était des grosses affaires. Et là, GM a la bonne idée, ou il y a quelqu'un chez GM qui a la bonne idée de dire, ben, on va prendre une Cavalier, puis on va l'habiller en dimanche, puis on va faire passer ça pour une Cadillac. Fait que c'est à peu près ça qui est arrivé. Ah oui. Là. Fait qu'on a pris une Cavalier. Bon, on n'a pas trop joué au début avec les motorisations. Mm-hmm. Puis on a mis du cuir en dedans, puis on l'a insonorisé un petit peu, puis on a chipé ça chez le concessionnaire, puis on a dit essayez de vendre ça. Fait évidemment, il n'y a pas personne qui a acheté ce véhicule. Là, il s'en est vendu moins de 100 000. C'était une catastrophe sur 5-6 ans. Sauf que encore là, on voulait essayer de faire quelque chose. Puis on l'a fait à répétition chez les manufacturiers, surtout à l'époque. Au lieu de développer de nouvelles voitures, tout ce qu'on prenait, c'était des voitures existantes, puis on les maquillait. Mm-hmm. On arrivait, puis on disait que c'était un nouveau véhicule. Mais c'était pas ça pantoute. Dans le cas du Cimarron, là, ça a été tough. Puis aussi, dans les mêmes années, on est arrivé chez Cadillac avec les 4-6-8. Donc, un moteur où on a pris un V8, puis on pouvait couper des cylindres, ce qui est la norme aujourd'hui, puis c'est imperceptible. Mais à l'époque, là, c'était le système informatique. C'était pas comme aujourd'hui, là, l'ordinateur venait de tout mêler. Là, il savait plus ses chiffres. Tu étais à H2, j'étais à 4, j'étais à 6. Ça, c'était atroce.
Je sais pas ce qu'il y a avec les véhicules carrés, mais c'est vrai qu'habituellement, c'est assez laid. Là. Je sais pas pourquoi il y avait cette tendance-là. Puis Normand nous soumet deux suggestions que j'adore, là, de véhicules qui ont un look un peu douteux. La Honda Element et la Kia Soul récemment, qui sont deux véhicules qu'on a essayé de faire des boîtes avec ça. Dans le cas de la Kia Soul, on s'est dit, ouais, le derrière, on va faire ça carré, mais le devant, ça va être rond. Donc, ça fait un style un peu particulier.
Oui, mais encore là, je condamne pas ça, parce que le Honda Element, si on regarde qu'est-ce qu'on a fait avec ce véhicule-là,
oui.
C'est on voulait faire un véhicule d'aventure. Donc, on a pris un CR-V.
Okay.
Qu'on a transformé en véhicule d'aventure avec le fond, au lieu d'être en tapis, le fond du véhicule, c'était des tapis de caoutchouc. C'était en caoutchouc, tu pouvais envoyer la hose en haut, puis nettoyer ça, mettre les vélos là-dedans, mettre les affaires. Et la boîte carrée faisait en sorte que c'est plus logeable,
c'est
plus
vrai.
Pratique. Donc, c'est ça qui a fait en sorte un peu l'idée du Honda Element. Puis, on n'avait pas plus d'argent dans sa recherche de moteur puis autre que dans le développement des voitures comme telles, puis on peut pas et on n'a pas les installations pour sortir des véhicules à l'infini comme Toyota par exemple. Donc on prend un véhicule qui existe puis on l'a changé un peu. Mais il y a eu du succès l'Element dans les premières années, il y a eu du succès et étrangement l'Element, c'est un des véhicules qui était le plus en demande, qui a eu le plus de succès en véhicule d'occasion qu'en véhicule neuf. Cher en véhicule neuf, mais en véhicule d'occasion, oublie ça, tu n'étais pas capable d'en trouver sur le marché.
Est-ce qu'il est relativement économique à conduire? Parce que c'est pas très aérodynamique, mais c'est un gros véhicule, parce que c'est carré. Donc
c'est un CR-V. Donc, c'était une mécanique du CR-V qui était très économique. Je me souviens bien, c'est le 2,4 litres, 4 cylindres, fiable, économique, pas crevable. Donc, les gens se garochaient dessus au niveau du véhicule d'occasion parce que ils voyaient un véhicule pratique, les systèmes des sièges à l'arrière, c'était vraiment pratique. Alors, pourquoi pas? Puis le Soul, là.
Oui.
Dans l'optique moderne d'aujourd'hui, de la mode des VUS,
oui.
les sports utilitaires, microscopique. Le Soul a été le premier. Chez Kia, on était à peu près le premier à sortir un très petit sport utilitaire. C'était un sport utilitaire, à l'époque, oui, il était carré avec un style particulier, mais il a été très populaire. Et on a comme lancé un peu cette mode-là des petits sports utilitaires sur une plateforme de voiture. Puis, oui, le style est discutable, mais on voulait peut-être pas en vendre trop.
Mais est-ce qu'on... Je ne sais pas si on a des statistiques là-dessus. Est-ce que c'est un véhicule qui se vend plus chez les dames? On peut-tu dire que c'est un VUS pour femmes?
Bien, la première génération, oui. Pas la nouvelle. La nouvelle, là, on a changé les phares avant. On a modifié ça. Oui, il était catégorisé comme voiture plus féminin. Mais ça a changé. Là, on l'a changé un peu. La version, on a fait une version électrique. Donc, c'est devenu un peu un véhicule de niche. Qui a sa place, qui a son succès. Puis si tu veux avoir quelque chose d'un peu différent, tu t'en vas vers là. Comme un peu Nissan a fait avec
le cube
qui est sorti aussi. Donc on voulait avoir quelque chose qui était vraiment vraiment différent. Donc ou le Juke. Le Juke aussi chez Nissan. Tu regardes le devant de ça, tu te dis il est accidenté,
c'est un peu, oui.
Il est pas accidenté. Tellement tu sais pas c'est quelle pièce qui fait quoi. Donc c'était un peu bizarre à l'avant. Mais ces véhicules de niche là ont quand même leur place. Dans ta liste, il y avait le X90 de Suzuki.
Oui.
Tu me parles d'un véhicule catégorisé populaire pour les
très
filles.
Très compact, là.
Il n'y avait pas de gars que ça soyait dans ce véhicule.
Ah ouais.
Ça, c'est ça, vraiment, là. Il a été populaire auprès des filles. C'est incroyable. C'est un genre de petit sport utilitaire. Puis, en plus, je pense qu'ils l'ont sorti en rose ou en mauve. C'était des filles. Puis, il n'y a pas un chum de fille qui a embarqué dans ce véhicule.
Hey, Daniel, si tu le veux bien, on va faire une courte pause au retour.
Oui?
Je veux tes prédictions dans le monde automobile pour 2020. Qu'est-ce qu'on va surveiller? Puis, on aura quelques questions pour toi également.
Que Québec se lève. On prend une petite pause. On vient ensuite. Restez là. Doc Mayou et José Arsenault.
Les incompétents, il y en a dans tous les sexes. Mais
Daniel, arrêtez de tourner autour du pot. Le sujet, il est là, okay. Non, non, mais à Noël, vous ferez attention, là. Avec nous autres, vous y allez direct.
Oui, OK. Les hommes, on est moins capable d'exprimer nos opinions. On se fait attaquer sur notre ton, notre façon de présenter le sujet.
Doc Mayou et José.
Lundi au vendredi, dès 9h30.
Au FM 93.
Maison Adam.
Dès maintenant, c'est la liquidation surplus d'inventaire chez Maison Adam. José vous offre jusqu'à 40% de rabais sur les meilleures marques de téléviseurs. De plus, obtenez la livraison gratuite et réglez vos achats seulement à l'été 2020. Pour vous aider à faire le bon choix adapté à vos besoins, passez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier et consultez les choix de José sur maisonadam.ca.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Liquidasport est la destination pour vos activités familiales. Ski alpin, ski de fond, raquettes, patins, bottes, manteaux d'hiver, sortez vous amuser sans vous ruiner. Passez vite chez Liquidasport, 1285 Jules Verne, liquidasport.com.
Pour les fêtes, l'équipe CGI et les Remparts récompensent les jeunes amateurs de hockey les 28 et 29 décembre et les 4 et 5 janvier. C'est gratuit pour tous les enfants de 12 ans et moins au Centre Vidéotron.
4 matchs uniques dont toute la famille se souviendra.
Le temps des fêtes aux Remparts.
C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
Un cadeau offert par CGI et les Remparts qui vous souhaitent de joyeuses fêtes.
Dans vos stations-service Paquette, c'est le concours, carburer et voyager. Pour chaque achat de 25 litres d'essence dans vos stations-service Paquette, vous courez la chance de gagner 3 000 $ en crédit voyage pour vous évader après les fêtes.
Ce serait parfait pour fuir les bancs de neige et aller se réchauffer sur la plage. Et vous avez une chance de gagner par achat de 25 litres d'essence.
Le concours, carburer et voyager. Pour un temps limité dans vos stations-service Paquette.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Pour vos problèmes de pied, appelez-les lundi pour un rendez-vous très rapide. Visitez piedquebec.com.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève. FM 93. Ça me parle. Ça me
parle. 9h34, on est avec Daniel Boudreau pour jaser de char d'abord. Daniel, je veux savoir tes prédictions pour 2020, parce que on voit toujours ça, puis je lisais aussi là 10 prédictions, le guide de l'auto qui a sorti ça pour l'année 2020, mais je me demandais, selon toi, qu'est-ce qui est à surveiller? Puis j'ai une couple de catégories, là. Naturellement, on risque d'aller fouiller là-dedans un peu. D'abord, qu'est-ce qui t'a attiré? Ben, je vais te laisser commencer, là. Toi,
qu'est-ce que j'ai hâte de voir? Parce que je m'attends pas à des grands. Il n'y aura pas de grand dévoilement en 2020 extraordinaire. Je pense pas qu'il va avoir quelque chose qui va révolutionner l'industrie encore. On s'attend toujours à ce qu'il y ait de plus en plus de voitures électriques.
Oui.
En 2020, qu'est-ce qu'on va voir arriver? C'est des sports utilitaires par-dessus sports utilitaires.
Ça va garder la cote?
Les petits multisegments, c'est la cote. Et on remplace des voitures. Comme par exemple, le Hyundai Venue.
Oui.
Au lieu de sortir, normalement, on aurait dû voir arriver une nouvelle génération d'Accent. Donc, on prend ce qu'on faisait au niveau du la petite voiture, qu'est-ce qu'on fabriquait au niveau de la petite voiture, puis on en fait tout simplement une carrosserie un petit peu plus haute. Donc, on fait des voitures, on fait des genres de petits sports utilitaires qui est plus à la mode, qui donne l'impression d'avoir plus de rangement. Mais ce qui n'est pas vraiment le cas.
Ben, Subaru est là-dedans aussi avec le Crosstrek, puis je suis le premier aussi à regarder pour ça justement en ce moment.
Oui. Fait qu'on veut faire du c'est ça, multisegment. Donc, on veut que ce soit pratique, que ça fasse un peu tout. Puis on rabat les bains, on a l'impression d'avoir beaucoup. Et on n'a pas l'impression, on a plus d'espace, tout simplement. Donc, on essaie de joindre deux affaires en même temps. Ça fait que c'est une bonne idée. Moi, je suis pour ça à 100 000 à l'heure. T'es assis un peu plus haut, t'as l'impression de sécurité qui est un peu plus présente. Alors, on va voir arriver dans plein de manufacturiers, beaucoup de ces petits sports utilitaires, et on les diminue là, en grosseur. Là. Qu'on voyait, normalement, tu as des voitures, tu as de la sous-compacte, tu as de la micro-voiture, tu as de la sous-compacte, de la compacte, de l'intermédiaire. Bien là, tu vas avoir du vu dans chacune de ces catégories-là, et on commence à les voir arriver de plus en plus petits.
Et est-ce que l'on va essayer d'axer un peu plus sur des modèles VUS qui vont devenir de plus en plus économiques au niveau de l'essence?
Ben ça, c'est un bon point. Parce que quand je parle d'impression, même si on diminue le véhicule, souvent, on n'a à peu près pas de différence au niveau de la consommation. Ça. Tu te dis, je vais prendre un Qashqai chez Nissan ou je vais prendre le Rogue. Ben, tu choisis pour la dimension du véhicule, pas pour l'économie, mais tu te dis le Qashqai est plus petit, il devrait être plus économique. Vraiment. Donc, faut faire attention au niveau de la consommation de carburant. Puis, on se rend compte que la consommation sur route, que tu sois dans l'intermédiaire ou même dans le sous-compact, c'est pas loin d'être la même affaire. On a tellement fait des pas énormes sur l'autoroute. En ville, tu vas aller gagner un litre ou deux, mais pas énormément. Puis là, tu vas choisir. Puis il y en a beaucoup qui se sont fait prendre. Tu prends n'importe quelle voiture sous-compact, là, nomme-les, là, Rio, Accent, ces affaires-là, dans cette catégorie-là, Spark. Tu dis, hey, ça consomme rien. Là, tu arrives, tu te promènes en ville, tu dis, hey, Caroline, ça consomme plus que je pensais. Ben oui. Il faut déplacer la masse quand tu es arrêté, partir, ça consomme, peu importe le véhicule.
Même si le moteur est plus petit.
Ce qu'on va voir arriver, puis c'est pas juste en 2020, on va voir arriver au cours de la prochaine décennie, c'est de l'hybridation légère qu'on appelle. Donc,
de l'hybridation légère.
Ce qu'on pense voir arriver, puis tu sais, 2020, là, si on se fie au gouvernement, on devrait avoir 100 000 véhicules électriques sur les routes.
C'est vrai, c'était la prédiction, ça, les attentes.
C'est là. Ben, oublie le projet, là. Ça sera pas ça, ben mais ça va bien.
On est à
ça
combien, bien. À peu près?
Ça va bien. 80 quelque chose. Okay, on est quand même pas loin. Puis on voit qu'on s'en va dans cette direction-là. Ça va pas aussi vite que plusieurs aimeraient, c'est vrai. Mais la construction et la fabrication de ces véhicules-là, des batteries, etc., c'est un peu plus long qu'on pensait. La nouvelle usine, méga-usine de Tesla est pas encore tout à fait en opération. Ça s'en vient aussi. Donc, on voit qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais entre ça, parce qu'on peut pas sortir des véhicules électriques, puis le miracle de la voiture électrique à bon marché, on voit que ça arrive pas, là.
Okay.
C'est pas là encore. Ça va prendre encore du temps. Ça va prendre encore des décennies avant d'avoir des véhicules vraiment abordables électriques à haut kilométrage. À haut kilométrage, je parle du 500 et plus. Ouais, avec l'autonomie à 500 et plus. Fait que tout ça, dans l'optique, ce qu'on va voir arriver entre-temps, c'est des alternatives. Parce que la plupart des manufacturiers vont avoir leur gamme en hybridation légère. Ça veut dire quoi, hybridation légère? Ça veut dire qu'on fait deux pas en arrière pour en faire trois en avant. Mais on en fait trois en avant, on en fait quatre en arrière. Donc, on fait un petit peu de la danse avec ça. C'est les premières générations de véhicules hybrides. Quand on nous disait les premières générations de véhicules hybrides, GM avait sorti ça sur ce type de système hybride-là sur la Malibu il y a longtemps, sur le Saturn VU il y a longtemps également. Donc, on prend le moteur électrique, le moteur, ben, on prend le démarreur, on prend l'alternateur, puis on n'en fait qu'un. Puis on transforme ça un peu en moteur électrique, on le place sur la courroie d'entraînement. Et cette courroie-là vient aider le moteur à consommer un peu moins. Et lorsque tu arrives, évidemment, là, lorsque tu arrives à un arrêt, le moteur s'éteint lui-même, il redémarre par lui-même. Donc, tout ça avec un système électrique qui est plus performant qu'à l'époque. Donc, on va avoir un système électrique qui va pouvoir nous en donner un petit peu plus. Donc, hybridation légère qui va arriver. RAM l'appelle le e-torque. On va le voir arriver sur le RAM en 2020. Sur le moteur 5.7 et 3.6 aussi, on va pouvoir l'avoir sur les deux. Et la plupart, Volvo a annoncé qu'il allait avoir ce système-là dans à peu près tous leurs véhicules. Donc, là, on est loin de la voiture électrique 100%. Mm-hmm. On est vraiment loin. Là. On a quand même notre moteur à essence. C'est bien parce que ça va diminuer la consommation, mais c'est ce qu'on va voir arriver au cours de la prochaine année. Quelques véhicules électriques, mais pas beaucoup pour 2020. Il va falloir attendre encore quelques années avant de voir arriver plusieurs véhicules électriques. Rien annoncé du côté d'Honda, rien annoncé du côté de Toyota. Nissan devrait nous présenter une version vue de la Leaf.
Ah ouais, OK.
Mais peut-être pas, ça roulera pas en 2020, je suis persuadé. Ça va falloir attendre encore un petit peu. Donc, on voit que toute cette direction-là, en 2020, il n'y aura pas de lancement majeur.
OK. Les gens ont des questions pour toi. Daniel, on va commencer par Alain. Qu'est-ce que tu penses du Nissan Titan XD sur la capacité de chargement, la fiabilité et est-ce que tu as vu le nouveau modèle 2020?
Oui, je l'ai vu, le modèle 2020, ce qui est une évolution, pas une révolution. Très beau, très, très beau. J'adore le XD. C'est un 2000. Tu sais, dans le langage camion, tu as les 1500, tu as les 2500, ouais. 3500, donc 3 quarts de tonne, une demi-tonne, 3 quarts, une tonne. Lui, le XD, c'est un 2000. C'est un entre-deux un peu, donc robuste. La cabine est très bien insonorisée. Version à essence, il consomme. Donc ça, c'est un petit peu plus que ce que tu vas pouvoir aller chercher ailleurs chez d'autres manufacturiers. Si tu prends des motorisations comme chez Ford, ils ont le 2.7 qui va pouvoir donner peut-être une meilleure économie, mais c'est quand même pas majeur. Donc, lui, il consomme. Et il y a une version diesel qui est encore disponible avec un moteur Cummins que moi, j'aime beaucoup. Donc, durable, grosse valeur de revente. Alors, moi, j'ai pas de problème avec le...
Est-ce que tu sais si la Prius V de Toyota va revenir? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il l'aimait beaucoup, puis que ça n'a rien à voir avec la Prius Prime, là, qui est, selon cette personne-là, une Corolla déguisée.
Ben alors, Prius, ouais, c'est ça. Prius version familiale, tu sais, on peut l'appeler comme ça, la Prius V, c'est une version familiale. Non, il n'y a pas de projet pour cette voiture-là à court terme. Ce que je vous suggère, c'est peut-être vous diriger vers le RAV4 Prime. Donc, vous allez avoir un RAV4 60 km d'autonomie électrique, 100% avec du rangement.
OK.
Ça, c'est peut-être
l'alternative.
Ou encore le RAV4, parce que le RAV4 hybride, tout simplement, comme la Prius V, c'était tout simplement hybride, il n'y avait pas d'autonomie électrique avec l'espace. Si on regarde les prix qu'ils ont ajustés Toyota du côté du RAV4 hybride, le RAV4 hybride traditionnel, si vous voulez pas payer pour le Prime, va faire le travail en masse, va vous donner l'espace, sécurité, quatre roues motrices, blabla. Je pense que c'est un choix intéressant d'aller vers le RAV4 hybride.
Christian veut s'acheter Kia ou Hyundai, mais raconte qu'il y a beaucoup de problèmes de moteur. Quel modèle il devrait éviter dans l'usager pour pas avoir ces problèmes-là?
Ben oui, ils ont eu une série de moteurs qui se nettoyaient mal. Là. Il restait bref, ils ont réglé quand même le problème. Puis à part au tout début où il niait le problème, puis que les gens ont dû s'obstiner, après ça, les moteurs, ils ont remplacé. Donc, aller dans n'importe quoi aujourd'hui, là, j'ai plus vraiment de crainte. La compagnie a compris qu'il fallait pas s'obstiner. S'il y a un problème, on le remplace, puis c'est tout. On avale la pilule, puis on passe à d'autres choses. Dans le véhicule d'occasion, les problèmes de moteur, c'était des Elantra, des Forte 5. Fait que si vous regardez cette catégorie-là, puis vous voulez aller chez Kia Hyundai, tout simplement vous assurer que le rappel a été fait. Si le rappel a été fait, vous n'aurez plus de problème dans cette catégorie de véhicules-là. Puis si vous voulez aller dans les sports utilitaires, ça a été correct. C'est juste ces véhicules-là qui ont été touchés.
On va
Mais
y aller.
Kia, Rio, Accent. Waouh!
OK, on va y aller en rafale, Daniel, parce que le temps nous manque. D'abord, commencer par te demander, est-ce que le Hyundai, quand est-ce que le Hyundai va sortir le prix pour la Ioniq 2020 électrique?
Oui, belle voiture. On l'a modifié un peu. Je l'ai vu là-bas. Je pense que ça va arriver un petit peu plus tard. Ça, attendez-vous à avoir des nouvelles de ça vers le Salon de l'Auto de Québec, début mars.
Chevrolet Volt usagé, tu recommandes quelle année?
N'importe laquelle. N'importe laquelle année. Ils ont fait un superbe travail, GM. Ils sont en train de se tirer dans le pied, les petits véreux. Je suis pas content qu'on enlève cette Volt-là. C'est un système qui fonctionne bien. Les batteries semblent pas s'essouffler avec le temps. Puis ceux qui en ont possédé une, tout le monde qui ont roulé ces véhicules-là, même à du haut kilométrage, zéro problème, tout va bien. On avait simplement qu'à faire une mise à jour de la nouvelle génération, on l'a faite, la deuxième génération, une mise à jour au niveau de l'intérieur. Donc, si vous pouvez vous permettre la deuxième génération, il y a 5 sièges en arrière au lieu de 4. C'est moins plastique à l'intérieur, donc peut-être y aller vers la première année de la nouvelle génération, mais peu importe celle que vous allez trouver, vous allez adorer ce véhicule-là.
C'est quoi, Chevrolet arrête la production de ça?
La production de ça. Ben oui, ils ont annoncé que c'était terminé. Probablement que ça allait trop bien. Puis ils sont pas habitués à des affaires qui vont aussi bien que ça. Donc, on arrête. Mais je comprends que c'est peut-être pas parce qu'à 30 quelques mille dollars, là, le prix, c'était très agressif pour la technologie qu'il y a dans le véhicule. D'après moi, c'était pas rentable. D'après moi, c'est un véhicule de démonstration pour dire on est capable d'en faire, voici ce qu'on peut faire, ça fonctionne, puis on a la technologie, puis on est bon. Oui, puis ils ont gagné cette quand même là, la guerre. Ils l'ont vraiment gagné avec la Volt. Je m'attends à voir arriver ce système-là dans quelque chose de plus dispendieux, chez Buick, chez Cadillac, dans un VUS quelconque où tu vas avoir de l'autonomie électrique, mais on va récupérer ça puis on va le vendre 80 000 au lieu de le vendre 35.
Merci beaucoup, Daniel, d'être passé nous voir. Bien apprécié.
Déjà
on se
tout?
Revoit un de ces jours.